Ça passe et ça casse.
Une revue de presse des informations militantes.
Par Geronimo Guzman. Comme j'en ai longuement parlé la semaine dernière, je ne vais pas m'attarder énormément sur la lutte contre le projet de loi El Khomri cette fois-ci, mais c'est quand même assez important, alors on va malgré tout faire un petit tour d'internet pour voir où on en est des mobilisations. Les sites d'infos militants reviennent pas mal sur la journée de mobilisation de mercredi 9 mars et donnent quelques perspectives de suite. La manif lyonnaise s'illustrait par des affrontements entre les flics et les manifestants. Alors bien sûr, il n'est pas question d'encourager sur Radio d'ici à attaquer la police ou à casser quoi que ce soit. Mais on peut quand même raisonnablement penser que plus la situation va devenir ingérable et plus le projet de loi a de chances d'être abandonné. Sur le site Rebellion, un article nous donne le détail des suites judiciaires pour les trois personnes qui ont été arrêtées mercredi. L'article nous dit « Suite aux comparutions immédiates après la manifestation du 9 mars, une cinquantaine de personnes étaient venues au tribunal pour soutenir les trois personnes interpellées. Et les condamnations pour les trois personnes, alors ça a été le lycéen mineur qui est passé devant le juge pour enfants, a été relâché, il est mis en examen et il est placé sous contrôle judiciaire. Il y a un jeune homme qui avait reconnu un plaquage sur un baqueux façon rugby. » Lui, il s'en sort avec 6 mois ferme, sans mandat de dépôt et 1000 euros de préjudice pour deux policiers. Le troisième inculpé, un étudiant, écope de 6 mois avec sursis pour jet de projectile et 800 euros de dommages et intérêts pour les 4 policiers qui se sont constitués partie civile. Bon, ces peines sont très loin des réquisitions du parquet et il est assez probable que ce dernier fasse appel, mais pour l'instant, en tout cas, ils sont tous libres. Indy Media Nantes nous parle aussi de cette arrestation à Nantes. Pour le reste, pour la suite de la mobilisation, alors le site larotative.info nous parle des 7000 personnes qu'il y avait à la manif à Tours, dans la toute petite ville de Tours, et raconte la suite de la mobilisation dans les facs et les lycées. Au moins jusqu'à vendredi dernier, en tout cas les lycées restaient mobilisés, le président de l'université avait annulé les cours. À Nantes, l'article du 9 mars au soir nous dit... Des dizaines de milliers de manifestants cet après-midi dans le centre-ville de Nantes, 4 lycées bloqués, des centaines d'étudiants et d'étudiantes réunis en AG. En comparaison, le mouvement anticipé au départ réunissait péniblement 50 à 100 étudiants. Sur parislutte.info, l'article qui s'appelle « Après le 9 mars, la mobilisation contre la loi travail continue », cet article nous dit « La première journée de lutte contre la loi travail a mobilisé beaucoup de monde à Paris, pas loin de 100 000 personnes ». Les prochaines manifestations prévues auront lieu le 17 mars, appelées par les étudiants, et le 31 mars par les syndicats. Les assemblées générales se poursuivent par ailleurs dans les facultés. L'article continue avec des mises à jour quotidiennes sur les mobilisations. Alors, on va prendre l'exemple de ce qui était dit pour la journée de vendredi. Donc ça nous dit que Solidaires Fonction Publique et Sud PTT appellent à rejoindre la grève étudiante du 17 mars et pour ça ont déposé des préavis donc dans la fonction publique et à la Poste et à Orange. La CGT Cheminot Versailles a voté une motion qui demande à leur fédération le dépôt d'un préavis de grève nationale reconductible à partir du 31 mars sur la base de leurs revendications sur le décret socle à la SNCF et sur le retrait de la loi travail. Dans son numéro 2, le journal La Grève, le syndicat solidaire appelle à soutenir les étudiants et les lycéens le 17 mars en se mettant en grève et en participant aux manifestations. On nous dit encore qu'à Dijon, la fac est occupée et les lycées sont bloqués hier et aujourd'hui. À Tours et dans le coin, blocage des lycées et de la fac également. D'autres BU sont bloqués comme à Nantes. Selon le site, au nom peu radiophonique, j'ai toujours du mal à le dire, Luttes en Or, les luttes qui se passent dans le Nord, Luttes en Or, la manif a rassemblé 20 000 personnes à Lille et les jours qui ont suivi ont été bien occupés. Diff de tract, assemblée générale ici et là et nouvelle manifestation samedi 12 et jeudi 17. Sur le site Mars Info, alors d'abord on a droit à une magnifique photo du siège du PS à Rouen après le passage de la manif, donc vitres pétées, intégralement recouvert de jet de peinture, ça fait toujours du bien. Et donc le site Mars Info est un site marseillais et il nous annonce pour Marseille aussi des AG un peu partout, dans les facs, dans les locaux syndicaux, dans d'autres locaux militants, surtout pour ce début de semaine. On se souvient que si cette loi passe, votre boss pourra assez facilement décider de vous faire travailler plus pour gagner moins, et toute une série d'autres saloperies. Alors on se retrouve dans la rue le 17 d'abord, le jeudi 17, et puis on se retrouve à nouveau le 31. article maintenant qu'on trouve sur le site rebellion.info et d'une triste banalité. L'article s'appelle « La préfecture conchit la justice et expulse un squat illégalement, une plainte est déposée ». Alors c'est ça, c'est d'une triste banalité parce que bon, il y a quelques bouts de loi qui protègent un tout petit peu les personnes qui squattent, c'est-à-dire qui ouvrent des maisons vides, hein, des maisons qui servent à personne et puis qui se mettent dedans pour se mettre à l'abri. Ces personnes peuvent à certains moments avoir certains petits types de protection et il est quand même pas rare du tout que soit des flics un peu spontanément, soit plus haut dans la hiérarchie, la préfecture se foutent complètement des lois en question. C'est le 29 février 2016, avenue Roger Salingros, c'est à Villeurbanne, qu'un huissier est venu en personne remettre aux occupants du squat un commandement de quitter les lieux. Un commandement qui précisait « Je vous adresse copie d'une autorisation administrative délivrée par la préfecture du Rhône, autorisant votre expulsion à partir de la fin de la période hivernale, soit à compter du 1er avril 2016. » 1er avril 2016. Et bah pourtant, ce jeudi 10 mars à 7h30, les flics sont rentrés en force dans le bâtiment pour en expulser les près de 80 occupantes et occupants. Donc jeudi matin, les forces de l'ordre, sur demande de la société Adrasté Fournière Giovanni Grain, huissier de justice, intervenant pour le compte de la mairie de Villeurbanne et de la société d'équipement du Rhône et de Lyon, ont procédé à une expulsion totalement illégale. L'autorisation du concours de la force publique, c'est-à-dire l'intervention des flics, autorisation de la préfecture, datée du 22 février 2016, précisait que le juge n'ayant pas supprimé le susdit délai d'hiver, les dispositions de l'article L412-6 s'appliquent, c'est-à-dire interdiction d'expulser entre le 1er novembre et le 31 mars. Il s'agit donc d'une nouvelle expulsion qui jette à la rue et dans le froid des dizaines de personnes, dont des enfants en bas âge bien sûr, contrairement aux directives européennes, à la circulaire du 26 août 2012 et aux promesses du préfet. Seules deux familles ont été relogées, pour quelques jours, à l'hôtel. Il s'agit donc clairement d'une voie de fait contre des personnes particulièrement vulnérables et d'une violation des décisions de justice que l'huissier ne pouvait ignorer. Donc, en l'occurrence, le MRAP, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, le MRAP va porter plainte aux côtés des familles dont les droits ont été bafoués auprès du procureur de la République, du défenseur des droits et du commissaire européen aux droits de l'homme qui vont être également saisis. Bonjour madame, je vois que vous avez là un baril de Ça casse et ça passe, la revue de presse des sites d'information militants.
Bah ouais.
Je vous propose de l'échanger contre deux barils d'une revue de presse quelconque. Qu'est-ce que vous en dites ?
Mais ça va pas, non ? Mais connard, mais dégage ! Mais pas question que j'écoute ta merde !
Merci, madame. Et puis, je vais maintenant m'attarder un peu sur un site qui est bien plus un site de réflexion que d'information. Un site qui s'appelle « Les mots sont importants ». C'est un site qui est né dans la première moitié des années 2000, au moment où il y avait tous les débats sur la loi contre le port du voile à l'école. Alors à ce moment-là, on y a retrouvé plein de gens qui écrivaient déjà un peu ici ou là, mais dont la diffusion était souvent confidentielle, et qui, en gros, étaient d'accord sur le fait que une loi qui décidait ce qu'une femme devait porter ou non sur sa tête avait pas beaucoup de chance d'être vraiment une loi émancipatrice pour les femmes. Donc des gens comme Pierre Thévagnan et Sylvie Tissot, qui étaient, par exemple, co-auteurs du livre qui s'appelait « La lepenisation des esprits », comme la féministe Christine Delphi, le sociologue Saïd Bouhamama. Des gens comme ça ont beaucoup utilisé ce site pour rendre leurs écrits disponibles. Le mouvement des indigènes de la République, à l'époque où c'était un mouvement ouvert, riche, foisonnant un peu, extrêmement intéressant dans ses recherches théoriques. Le mouvement a développé sur ce site ses premières analyses. Bon, plus tard, le mouvement s'est scindé et une partie des gens sont partis former le Parti des indigènes de la République. Alors ceux-là, ils ont un discours qui est plutôt limite quand même, un peu homophobe, un peu antisémite, un peu craignos sur le féminisme. Mais celles et ceux qui ont lâché les indigènes à ce moment-là se retrouvent encore sur le site « Les mots sont importants ». La présentation du site nous dit que, ouvrez les guillemets, « si nous ne prétendons pas connaître la bonne façon de parler, nous considérons qu'il y en a indéniablement de mauvaises. C'est l'analyse de certaines d'entre elles que nous proposons sur ce site, en soulignant l'ampleur et la gravité de leurs effets. Entretien des préjugés et des politiques racistes, légitimation de l'oppression dite sécuritaire, euphémisation de nombreuses violences, notamment étatiques, occultation des questions dites mineures, comme le sexisme et l'homophobie, triomphe du mépris de classe et de la guerre des civilisations. Bref, j'aime beaucoup ce site qui propose aussi bien des courts billets d'humeur que de longs articles de fond, et aussi bien des articles originaux que des textes qui sont repris ici et là. Dans tous les cas, même si on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce qu'on y trouve, il y a toujours beaucoup de choses pour nourrir notre réflexion sur les mécanismes de domination, d'oppression et d'exploitation. Alors, dans les derniers articles parus, par exemple, on a cet article qui s'appelle « De la banalité du sexisme et du racisme ». Sous-titre « Retour sur les événements de Cologne et leur traitement médiatique » par une certaine Hanan Karimi. Et donc, Hanan Karimi nous dit que les violences et agressions sexuelles faites aux femmes au moment de la nuit du Nouvel An à Cologne sont une tragique illustration de la manière dont l'espace public demeure le théâtre de domination qui vulnérabilise les femmes. Dans toutes les sociétés aujourd'hui, que ces sociétés soient orientales ou occidentales, du nord ou du sud, des hommes se permettent de violenter des femmes dans les sphères privées et publiques. À mon sens, nous dit-elle, le constat de la banalité du sexisme aurait dû être la trame des débats au lendemain de ce drame. Malheureusement, nos sociétés préfèrent se distancer de l'insoutenable banalité de ces violences en se focalisant sur la culture des présumés agresseurs. Et bah oui, parce que du coup, toute la polémique qui est faite suite à ces agressions tourne beaucoup autour de savoir si c'est l'islam ou la civilisation arabe ou quoi qui fait que les agresseurs ont commis ces agressions sexistes. Tout ça sans se demander ce que peut donner à certains moments la fête de la bière à Munich ou ce que peut faire n'importe quel groupe de mecs, qu'il s'agisse de supporters de foot ou de n'importe quoi, une fois qu'ils sont dehors ensemble et avec de l'alcool sous la main. Comment est-ce que ces gens soient bronzés ou pas, ça change pas forcément grand-chose sur leur manière d'être avec les femmes. L'auteur de l'article, elle nous dit en gros, ce qui pourrait sembler une évidence, hein, mais qui en est malheureusement pas une, que le sexisme n'est pas arabe, qu'il n'est pas musulman, mais qu'on le retrouve partout. Que l'Occident adore le sexisme des Arabes, parce que ce sexisme permet dans un même mouvement de se distancer des Arabes, et justement en faisant ça, de faire croire que nous, c'est pas pareil, nous on n'est pas sexistes. Et tout ça dans un pays, donc la France, où il faut quand même bien dire que un quart des députés sont des femmes, c'est-à-dire que les trois quarts sont des mecs, et dans ce même pays où 100 à 150 femmes chaque année meurent sous les coups de leurs conjoints. Autant dire que le sexisme n'est pas que oriental, musulman, arabe ou que sais-je. Hanan Karimi nous dit « Les violences faites aux femmes ne peuvent souffrir d'analyses ethnocentrées qui font l'impasse des violences invisibles et invisibilisées qui se jouent quotidiennement dans le plus grand silence. Les traitements médiatiques et politiques des événements de Cologne démontrent la manière dont les déviances des non-blancs sont directement interprétées en termes de culture. La culture des non-blancs, migrants, arabes, noirs, roms, hispaniques, est une manière politiquement correcte de traiter de la question raciale. » Et alors là, ces cultures non blanches sont censées être, du coup, les cultures roms, noires, arabes, etc., sont censées être stables, homogènes, archaïques et dangereuses. Ce qui, bien sûr, n'est pas le cas, parce que chaque culture, quand on dit culture, c'est toujours un groupe de pensées extrêmement compliqué, qui comporte extrêmement de différences. Et l'article conclut. D'une hiérarchie sexuelle dont les agressions sexuelles sont l'expression, nous passons à une hiérarchie raciale dont la focalisation sur la culture des migrants est l'illustration. Est-il nécessaire de préciser que leur logique et leur mode d'action sont analogues ?
Qu'est-ce qu'il y a ?
Qu'est-ce que c'est ?
Les malfaisants. On choisit un coin tranquille pour ne pas voir les sales gens. Ils viennent justement dans ce coin-là pour s'entretuer.
Un autre article tout récent sur le site nous raconte les mésaventures du journal strasbourgeois La Feuille de Chou. La Feuille de Chou existe depuis 2004 et elle fait en gros de la contre-information municipale. Entre autres sujets de préoccupation, elle s'intéresse à la manière dont la ville de Strasbourg traite les Roms qui sont installés là. Ça peut donner des articles qui s'appellent par exemple « Noël à Strasbourg, le chef de la mission Roms de la ville demande l'expulsion d'une dizaine d'enfants, dont deux sont des nourrissons ». Ou encore « Une femme avec 9 enfants laissée à la rue par la ville de Strasbourg. Alors, il se trouve que le conseil municipal de la capitale alsacienne a une mission Rome avec un chef de mission et que ce monsieur a porté plainte contre la Feuille de Chou pour, ouvrez les guillemets, avoir tenu des propos portant atteinte à l'honneur et à la considération de Jean-Claude Bournaise, donc le chef de la mission Rome, suite à ces deux articles. Alors, on remarque que dans la plainte, il ne parle pas de diffamation, ce qui semble quand même signifier que ce Jean-Claude Bournaise ne remet pas vraiment en cause les faits qui sont dénoncés dans les articles, Les mêmes faits sont d'ailleurs plus ou moins rapportés dans des articles du journal local Les Dernières Nouvelles d'Alsace, bon c'est un journal qui est à peu près aussi gauchiste que Le Progrès, hein, ou sur rue 89 Strasbourg. Le site dont je vous parle aujourd'hui, les mots sont importants, publie donc le communiqué de presse de la feuille de chou. Voilà, bah on peut y lire ces mots de son directeur de publication, Jean-Claude Meyer, qui est donc aujourd'hui poursuivi, et qui nous dit « Certains d'entre nous sommes les enfants de victimes du nazisme et du franquisme. Nous sommes d'autant plus vigilants sur ce qui, à partir des politiques actuelles des administrations concernées, et en particulier pour la mission Rome, pourrait conduire à de graves dérives. L'histoire montre que cette vigilance est plus que nécessaire. Vouloir l'empêcher aujourd'hui est inquiétant. » Chères auditrices, chers auditeurs, c'était Geronimo Guzman et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Ça casse et ça passe, la revue de presse des sites d'information militants.